Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui reste irrémédiablement accroché à ses rêves d'enfant, ce qui nous faisait nous imaginer en archéologue, en voyageur temporel et en cosmonaute alors que nous avons tous fini journaliste. C'est moche, mais pour maintenir ses rêves en vie, rien de mieux que la fiction qui régulièrement nous permet d'expérimenter par procuration des fantasmes aussi communément partagés que l'exploration spatiale, source infinie d'inspiration pour le cinéma, la preuve avec un des films très attendus de cette rentrée, Ad Astra de James Gray, dont on va causer là tout de suite avec un quatuor de navettes interstellaires de la critique, Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy.
Salut Thomas.
Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 201 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît.
Ad Astra donc nous embarque aux côtés de l'astronaute Roy McBride alias Brad Pitt qui va traverser l'espace pour retrouver son papa Clifford incarné par Tommy Lee Jones dont les activités mystérieuses menacent la sécurité de l'ensemble du système solaire.
The Earth put its hopes in him. And now it's fate. It's on me.
We have a job to do. Are you ready?
I'm ready.
Derrière la caméra, on l'a dit, c'est James Gray, réalisateur des très appréciables et appréciés The Yards, Little Odessa, Two Lovers ou plus récemment The Lost City of Z, dont on avait d'ailleurs parlé dans nos ciné à l'époque. Et au casting, aux côtés de Brad Pitt et Tommy Lee Jones, on trouve Liv Tyler, Ruth Negga ou encore le vétéran Donald Sutherland. Votre avis sur cette Ad Astra, les amis? Je vous lis le mail que Lélo Jimmy Battista m'a envoyé à la sortie de sa séance hier. Eh ben, peu cher, sacrée merde que tu m'as fait voir là. J'en déduis que tu es moyennement...
J'ai eu un trajet de métro après d'une heure qui m'a permis
d'étoffer un peu ta critique
tant que ça se décante et tout. Non, en fait moi je trouve qu'il y a quand même, c'est un film qui est quand même super intéressant dans le fond parce qu'il aborde quand même deux sujets enfin moi que je trouve intéressant et qui sont en plus abordés de manière assez ambitieuse qui c'est la relation père-fils et la solitude, mais la solitude au sens vraiment universel celle d'un de plusieurs personnages et la solitude de l'humanité dans l'espace, etc. Mais enfin moi la forme ça m'a laissé dehors quoi, c'est-à-dire c'est le film, c'est une boîte de nuit et on m'a vraiment dit que c'était pas pour moi quoi. Et
qu'est-ce qui
il y a vraiment eu un souci, déjà enfin il y a une espèce quand même une froideur et une lourdeur que j'ai trouvé enfin sans nom quoi. C'est vraiment il y a des scènes, enfin alors bon, que le film soit froid et lent et un peu clinique vu le sujet, jusque-là c'est pas bon. Il y a eu des films comme Bienvenue à Gattaca qui étaient exactement comme ça et qui pour qui ça marchait très bien. Mais là, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Surtout qu'en plus, enfin, ils ont intercalé des scènes d'action dans le film qui ne fonctionnent pas. Enfin, moi, je trouve qu'elles fonctionnent pas du tout. Il y a une scène de poursuite en module lunaire. Je la trouve lunaire justement. Enfin, c'est vraiment, je comprends pas quoi. Enfin, c'est comme on parlait de Rambo 5. Je comprends pas.
Rambo 5, on en parlera la semaine prochaine.
On en parlait avant l'émission.
Voilà.
Et voilà. Enfin. Je sens pas de volonté de quelqu'un derrière. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment tout est méga froid. C'est vraiment tout le film sort d'un congélateur. Et je trouve aussi qu'on prend beaucoup le spectateur par la main, qu'on surligne beaucoup de choses tout le temps. On lui explique bien tout ce qui se passe. Alors en plus, il y a le côté, il y a la voix off. Il y a beaucoup de Brad Pitt part beaucoup en voix off. Ça prend quand même la forme d'une séance de psychanalyse de 2 heures par moment. Donc c'est vraiment assez pénible. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez pénible.
Et très cher.
Comment ?
Et très cher du coup.
Parce que oui, oui.
Bah, 100 balles. Ça va, 200 balles.
Moi, j'ai montré. À Montreuil, la place est très peu chère.
D'accord, très
tout de suite. Mais on entend toujours des phrases. Moi, des fois, j'étais à deux doigts de rire. Enfin, malheureusement, quoi. C'est genre, on passe notre vie à se cacher. Dans la rage de ce singe, j'ai vu la rage de mon père. Enfin, moi, je peux pas. Quoi, je suis désolé. Enfin, et après, il y a encore un autre.
Il faut recontextualiser quand même.
Ouais, non, mais oui, mais on va vous expliquer après. Mais
moi, je vous donne des
moi,
choses.
Moi, je vous balance des choses comme ça. et après, j'ai encore un autre problème qui est là purement personnel, c'est qu'il y a un des gros enjeux dramatiques repose sur le personnage du père de Brad Pitt, qui est joué malheureusement par Tommy Lee Jones. Et moi, Tommy Lee Jones, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il aille dans sa. Il faut qu'il s'achète une cabane dans le Montana et qu'il arrête de jouer. je le trouve nullissime, mais nullissime. Et j'ai une théorie, c'est que je pense que Michael Ironside et Tommy Lee Jones ont été intervertis à la naissance. Et qu'en fait, Tommy Lee Jones a la carrière qu'aurait dû avoir Michael Ironside et vice-versa. Et voilà. Et je tiens à le dire aujourd'hui. Voilà. Je tiens à le dire devant témoin. Je trouve ça scandaleux, abominable.
C'est en plus, il ressemble
de plus en plus à un topinambour. Voilà. C'est abominable. Tommy Lee Jones, pars, va-t'en. Non, oui, c'est un délit de sa gueule. Mais je voulais en rajouter. Voilà, mais c'est vrai. Enfin, je le trouve. Il y a une scène au début où il explique. Qu'il a fait son projet, le projet Lima, il est parti dans l'espace, machin. Il explique qui il est, etc. C'est ridicule. Je comprends pas. Mmh. Voilà.
Ok.
Mais à part ça, le film, oui, sujet intéressant. Il y a des choses à en retirer.
J'ai bien aimé.
C'est sympa.
À part pour les topinambours.
Non, vraiment. Enfin, voilà. Ouais.
Ok.
Je suis pas aussi catégorique que ce que je t'ai envoyé à la sortie.
Ouais, c'est bien.
Mais pas loin.
C'est un avion en mouvement. Très bien. Perrine, je crois que toi, t'étais un peu plus. Perrine, réveillez-vous. Je crois que tu étais un tout petit peu plus, un peu plus enthousiaste.
Ah oui, je suis beaucoup plus... En tout cas, c'est pas difficile, visiblement, de faire beaucoup plus enthousiaste que Jimmy.
Ah, les autres n'ont pas parlé encore.
C'est vrai. Je suis d'accord sur l'aspect clinique. C'est vrai que le film a quand même quelque chose de très, très, très froid. C'est pas accessible facilement. C'est pas de l'entertainment, du divertissement absolu. Voilà, faut accepter vraiment cet aspect. On n'est pas là vous brosser dans le sens du poil. C'est pas Star Wars, les gars. Enfin, ça va pas être ça, quoi. Donc, une fois qu'on a accepté ce parti pris-là, moi, je trouve que c'est assez intéressant, en fait, parce que tu mentionnais Lost City of Z, qui pour moi était le plus grand film l'année de sa sortie, et je trouve que c'est un très très grand film. Et je trouve que. J'ai oublié le titre du film, mon Dieu. Ad Astra, c'est le pendant, en fait, vraiment, de Lost City of Z. Lost City of Z, c'était l'histoire d'un père, enfin, il était père, hein, mais c'était pas que ça sa vie, hein, il était père, qui partait explorer le fin fond de l'Amazonie pour trouver, que sais-je, quelque chose.
Une civilisation mythique.
En tout cas, il cherchait quelque chose comme un peu le père. De Brad Pitt dans le film va faire ce projet Lima pour essayer de trouver des autres formes de vie dans le reste de l'univers et Ad Astra serait donc le film sur le fils, c'est-à-dire ce père qui avait laissé son fils pour partir en Amazonie, qui a fait comprendre à son fils que il y avait quelque chose de plus important que lui, qui était une mission qui le dépassait, comment le fils le vit d'une certaine façon, comment on accepte que d'avoir été abandonné, d'avoir été laissé pour quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, qu'on n'est pas assez intéressant pour celui qui est censé s'intéresser à nous, notre père, quoi. Donc je trouve que c'est assez intéressant, on voit vraiment les deux films marchent vraiment ensemble et donc en effet c'est tout le sujet, c'est cette quête du père, c'est-à-dire aller retrouver le père, aller retrouver le lien et trouver le pardon, la possibilité du pardon, parce que cette absence total, donc je crois qu'il avait perdu contact avec lui depuis 16 ans dans le film. Cette absence totale de contact a finalement généré chez le personnage de Brad Pitt une perte des émotions, un refus de ressentir. Et c'est un personnage qui est vide, qui est juste une page blanche et qui s'interdit de ressentir, puisque de toute façon il est connu dans le métier pour être la personne qui a le cœur qui bat le moins vite, enfin qui vraiment est incapable de ressentir ni le stress, ni rien, ni aucune émotion. Ce qui va le couper de sa femme, ce qui va le couper du monde des hommes et finalement son endroit à lui, ça devient l'espace. Ça devient l'espace parce que l'espace, c'est le vide. C'est littéralement le vide. Donc, c'est un vide réel, c'est un vide métaphorique, c'est le vide intérieur, et on est face à notre vide intérieur. Et je trouve ça assez spectaculaire, et j'adore comment le film commence. On dirait presque ce truc de Red Bull, là, où le mec, c'était Baumgartner, là, qui s'était jeté dans le vide, là, de l'espace. Donc, Brad Pitt tombe, comme ça, de l'espace. Littéralement, il tombe, et il n'en meurt pas, mais il tombe. Et tout le long, c'est cette espèce de chute permanente de ce personnage pour aller taper le fond, en fait, d'une certaine façon, pour aller toucher le fond, pour pouvoir éventuellement être capable de remonter et d'aller chercher finalement un contact en lui, d'aller chercher une solution en lui pour refaire le lien avec ses émotions. Et pour ça, il va falloir passer par faire le vide de tout. Et c'est assez joli, finalement, que ce père qui va au fin fond de l'espace pour aller trouver l'alien, aller trouver l'autre, finalement, Brad Pitt va faire le même chemin, ce même chemin d'aller au fond de l'espace pour aller retrouver l'autre, son père, un contact à quelque chose qu'il pense avoir, soit qui n'existe pas, soit qui a disparu. Donc je trouve que il y a vraiment, le film à plein de niveaux est très très, enfin est vraiment sublime, et c'est assez assez intéressant cette vague de films de l'espace, enfin qui se passe dans l'espace du moins. On pourrait partir d'Interstellar, Gravity et récemment First Man, où vraiment l'espace, ce lieu d'introspection en fait. Et ça c'est pas nouveau, hein, ça existait déjà, mais c'est marrant qu'il y ait cette vague récente, en tout cas que ça revienne. Et je rapprocherais vraiment plus Ad Astra de First Man en soi, parce qu'il y a cette même idée du deuil, il y a cette même idée d'aller chercher dans l'espace un contact avec quelqu'un qui a disparu, d'aller trouver une réponse dans l'espace. L'espace, ce grand terrain de jeu pour les kamikazes en fait, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre, de toute façon peu importe, et qui vont essayer de trouver une réponse. Donc, et la façon dont James Gray arrive à filmer ce vide, arrive à filmer cette immensité, enfin, il a quand même ces images, on dirait presque un documentaire, c'est vraiment sublime. Et je suis pas d'accord sur les histoires de scènes d'action. Il y a quelques scènes d'action, mais elles sont assez fascinantes, parce que par exemple le truc de la lune, par exemple, je prends l'exemple de la lune, où il y a cette bataille piou-piou avec des rangers de la lune là. Et ben, c'est intéressant, des modules, c'est mieux que les rangers. Des modules dans la Lune, c'est vraiment intéressant en soi, parce que la Lune, c'est quoi ? C'est un nouveau terrain de conquête. L'espace est un terrain de conquête et la Lune est un terrain de conquête. Donc on est seul sur la Lune, comme on est seul tout le temps dans ce film. Tout le monde est seul, et surtout Brad Pitt. Et en fait, là, c'est le Far West. C'est le Far West. Et le Far West, c'est de la conquête. Le Far West, c'est on a un terrain de jeu et on le conquiert. Et on est seul et on fait ses propres règles. Donc on est toujours sur cette idée de la solitude qui va être réutilisée à plein, avec plein de figures, avec plein de dessins différents, en fait. Il va faire une sorte de composition sur le thème de la solitude, et mené par Brad Pitt, qui est juste bouleversant pendant tout le film. Non, je trouve que c'est un très grand film. C'est pas un film facile, c'est pas un film agréable du tout. Et honnêtement, faut y aller en forme avec du Berroca ou un truc comme ça, parce que clairement, ça va pas vite.
Pas de
marque. Ouais, enfin, oui, bon, peu importe, Buronzan et autres et compagnie. Voilà, faut y aller avec un petit peu de pêche, quoi, parce que sinon, c'est un peu violent. Là, dans mon état, par exemple, je tiendrai pas deux minutes. Mais je pense que c'est un film qui vaut l'effort. Comme tout le cinéma de James Gray d'ailleurs vaut l'effort tout le temps de le regarder, parce que c'est grand et c'est beau.
Stéphane.
Bon, elle a fait un long tunnel, alors elle a un peu de...
Pardon, oui.
Non, mais elle a un peu tout dit, elle a un peu avancé.
C'est l'hôpital qui se moque de
la charité. C'est pas du tout un reproche, au contraire, elle a amorcé beaucoup de choses qui finalement j'allais
aborder,
quoi.
C'est endormi immédiatement à la fin de sa
phrase. Je trouve pas que ce soit un film si difficile d'accès. C'est-à-dire que, en fait,
c'est un film... Je dirais la même chose, en fait, vraiment. Moi, c'est moi qui ai pas aimé, je sais pas le problème, là. C'est pas l'accessibilité.
C'est surtout un film qui a un rythme spécifique, en fait. Et voilà, je pense que si tu l'acceptes comme tu acceptes finalement normalement tous les rythmes dans les films quand tu es censé rentrer dedans, c'est la logique du cinéma. Si ce n'est que peut-être on n'a plus l'habitude d'avoir un film qui a gros budget avec une star, en fait, qui propose dans l'espace, etc., ce que tu veux, qui propose ça, quoi. Moi, je pense que c'est relativement accessible. C'est intéressant. Il a le problème, effectivement, je pense, d'arriver après tous les autres films. Ce qui fait qu'il y a, si j'ai bien compris, en fait, lui, il voulait le faire il y a déjà quelques années, ce projet. Donc voilà. Moi, je suis juste déçu que ce soit pas la suite combinée de Armageddon et de Space Cowboy, parce qu'il y a... Comment elle s'appelle, Liv Tyler
et Tommy Lee Jones.
Et Tommy Lee Jones, quoi. Non, mais oui, enfin, cette problématique, en fait, c'est que moi, j'ai pas de problème avec les scènes d'action en soi, parce qu'elles sont aussi traitées, on va dire, de façon... elles sont cohérentes, en fait, dans l'univers dans lequel ça se passe, parce qu'elles sont traitées de cette manière-là. C'est-à-dire que quand tu regardes, à part peut-être éventuellement un moment spécifique où tu vas avoir du son dans l'espace, il essaye vraiment de gérer à travers le fait que le sound design est à travers ça. Ce qui fait que la scène d'action, elle fonctionne aussi... la scène dont on parlait, la poursuite sur la Lune, elle fonctionne justement parce que t'as... une espèce de logique d'immersion, c'est-à-dire que sur le son ça fonctionne, moi je trouve qu'elle fonctionne moins dans le langage cinématographique, et c'est un peu le problème que j'ai toujours eu avec James Gray. C'est-à-dire que si je comparais cette scène avec une autre scène de James Gray, même si c'est beaucoup moins fort, beaucoup moins intense et beaucoup moins prenant, ça serait la scène, en fait, avec même s'il n'y a pas les mêmes enjeux, ça serait la scène de poursuite sous la pluie dans La Nuit nous appartient, en fait, où il y a un point de vue sur la séquence qui finalement vend la séquence. C'est-à-dire que celui de La Nuit nous appartient, c'est vraiment à travers, en fait, la pluie, à travers la voiture des fils, en fait, ils voient ce qui est en train de se passer au père, ce qui arrive au père dans la poursuite. Et en gros, on est vraiment derrière eux, pour suivre, l'instant tragique qui va arriver. Quoi. Là, c'est beaucoup moins important, l'enjeu est beaucoup moins important, mais par contre, c'est si je dis pas de bêtises, la première fois que tu es dans l'espace, vraiment, en fait, dans le film, ou en tout cas sur la Lune, quoi, tu vois, donc t'es censé, on est censé rentrer dans la partie exploration du film. Et du coup, bah, le fait qu'il aborde ce point de vue-là et qu'il le traite de cette manière-là, ça, c'est intéressant, je trouve. Je trouve ça moins maîtrisé que dans La Lune nous appartient, mais c'est intéressant. Et ça dénote, en fait, d'un cinéaste qui se pose des questions sur le film qu'il essaye de faire, même si, voilà, enfin, après, thématiquement et en termes de production et de casting, ça reste relativement comparable, effectivement, à Gravity, même si c'est pas du tout le même film au final. Ça reste quelqu'un qui a besoin d'aller au bout de l'espace pour revenir sur Terre et se transformer. C'est Interstellar, c'est la même logique. C'est First Man. Et pourquoi pas? Mais voilà, donc je vais essayer d'en rattacher à la plus-value de ce film-là, en fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce que j'attendais d'ailleurs pas forcément de lui sur ce terrain-là. Il y a une vraie logique de production design sur la façon dont on va traiter les endroits où ils vont, en fait, sur Mars, sur la Lune, etc., etc. Ce qui est assez intéressant. C'est quelqu'un qui essaye, qui a compris qu'il fallait éviter d'essayer de citer 2001 le plus possible, même si ça peut arriver une fois de temps en temps. Et après, il y a oui, des petits moments comme ça surprenants, quoi. La scène, une histoire de singe, mais la scène de singe, c'est une scène surprenante, en fait. C'est un truc où tu t'es pris d'un seul coup dans un truc où tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et t'as l'impression de tomber dans un film d'horreur pendant une demi-seconde. Mais si tu es un tant soit peu. Enfin, c'est cohérent. Moi, je trouve que ça soit là. Après, peut-être pas de la façon dont ça s'est fait, mais en tout cas, pour moi, ça me semble cohérent, en fait, parce que voilà, il y a des singes qui sont utilisés comme cobayes. Enfin, donc voilà, ça peut. Et il y a pas. Et là-dessus, ils ne cherchent pas forcément à expliquer ce qui se passe. Voilà, il y a cette. Donc voilà. Donc le film, il est. Ouais, moi après, c'est ce problème que j'ai avec plus ou moins tous les films. Moi, j'ai découvert James Gray en salle à l'époque avec Little Odessa, que j'avais adoré.
Superbe.
Voilà, que j'ai. Très rarement revu parce que c'est un film qui était tellement noir et tellement dépressif et tellement machin que voilà, j'ai dû le revoir une fois, peut-être 10 ans après. Et depuis, en fait, ça n'est pas l'un des granulades, mais disons que en fait, j'essaie de me rattraper aux branches parce que c'est pas la promesse des débuts. C'est-à-dire qu'en gros, The Yard, j'avais vraiment déjà l'impression de revoir le même film, mais en moins réussi. La Nuit nous appartient, il y avait d'autres choses qui allaient. Et après, j'ai un peu lâché. Il faudrait que je regarde To Lovers, par exemple, parce que voilà. Et j'apprécie le fait qu'il aille sur d'autres terrains. Mais j'ai quand même le sentiment, en fait, qu'il raconte quand même, comme l'a pointé Perrine du doigt avec Lost City of Z, effectivement, des films miroirs à chaque fois, quoi. Et ça peut tourner un peu au procédé pour moi. Je vois la relation, en fait, que tu fais, en fait, sur Lost City of Z et Ad Astra. Et je me suis dit, oui, bon, bah, c'est, en gros, c'est kiff-kiff bourrico, quoi. Mmh. Si ce n'est que c'est dans l'espace, au lieu de
c'est
dans...
pas kiff, c'est pas le même.
Non, mais en fait, après, c'est ce que je veux dire par là, c'est que finalement, en fait, comme il retraite tout le temps les mêmes thèmes de cette manière-là, c'est-à-dire que
c'est son thème.
Oui, oui, mais
c'est bon, des variations sur le même thème. C'est joli.
Ouais, ouais, mais c'est enfin des obsessions où t'as envie de dire après 25 ans de carrière, est-ce que tu t'es un peu, tu t'es un peu guéri, je sais pas, ou partir sur autre chose. Mais après, c'est voilà, c'est juste.
Il y a des blessures
dont
on ne guérit pas.
Non, mais c'est pas ça. C'est que je suis moins touché au final par le cinéaste qui a pu me toucher la première fois en fait avec son premier film. Et c'est un peu mon, alors c'est peut-être subjectif, mais c'est ma problématique avec James Gray. Et elle va de pair avec le fait que c'est quelqu'un qui a été encensé, surtout par la critique française, hein, beaucoup plus que dans le reste du monde, parce que fondamentalement,
parce qu'aux États-Unis, c'est pas exactement
ils s'en foutent.
Le cas.
Voilà,
il y a une très belle interview de lui dans Libération qui est parue récemment.
Et quelque part, je me dis, bon, bah oui, pourquoi pas, enfin, pourquoi pas cette reconnaissance, mais je le trouve un poil surestimé, on va dire. Voilà.
D'accord. Julien.
Moi, je mange plutôt du côté de Jimmy, mais je suis beaucoup moins.
Oui, moi, c'est du spectacle. Moi, je suis là pour le spectacle.
Ouais, beaucoup Jimmy, moins. Vraiment, non, mais déjà, mon ouverture, je dois dire que c'est un des derniers films. Enfin, c'est déjà distribué par Fox sous la bannière Disney, mais c'est pas une production Disney. Via Fox.
Oui. C'est un film produit par Fox.
Alors, et comme le James Mangold, alors que je n'ai pas encore vu là, mais qui arrive prochainement et tout, je dois dire que je pensais pas dire ça un jour, mais ça me fait vraiment mal au cœur de voir que ce studio-là risque de disparaître en fait, parce que quelles que soient mes réserves en fait sur Ad Astra, tu peux pas enlever que c'est un film, un vrai prototype. C'est un film qui tente des trucs, qui essaye des choses, là où évidemment toutes les productions Disney aujourd'hui n'essayent absolument plus rien, quoi. Et tu te retrouves vers un objet qui est alors moi pour le coup assez difficilement identifiable, et ça fait partie, il y a j'ai deux gros problèmes en fait avec le film. Ça, c'est mon premier problème. C'est-à-dire que je trouve que moi, ces scènes d'action sont des vrais grumeaux en fait à l'intérieur. Je n'ai pas vu du tout pour le coup de cohérence. J'ai eu des ruptures de ton qui n'ont pas été, je trouve clairement, ou alors préparées ou alors assumées, ou qui ont conduit à quelque chose. Alors, on peut les justifier par le fond du film, etc. Après, au niveau stylistique et au niveau de ce que ça m'apporte en tant que, comme sensation en tant que spectateur, je trouve que c'est totalement en porte-à-faux avec le reste. Alors, c'est très clairement pour moi le cas avec la poursuite sur la Lune. C'est encore plus le cas avec la scène du singe, où je me suis dit, mais je suis sur quel registre en fait de film? Et c'était assez désagréable. Et puis en plus, c'est pas payant en fait. C'est-à-dire que je suis sorti de ces deux scènes en me disant, mais pourquoi en fait? Enfin, j'ai l'impression qu'il me racontait déjà ça ailleurs, autrement, de façon plus efficace et surtout sur une foulée qui était un peu plus souple. Mmh. J'ai eu un peu l'impression que James Gray se disait, bon bah là c'est un film qui va coûter cher, donc j'ai essayé de lui donner un peu de biscuit pour les gens qui viennent pour le spectacle. J'ai eu un peu cette sensation là, peut-être fausse, hein, j'en sais rien, mais ça a été un vrai handicap en tout cas pour moi dans l'appréciation du film. Surtout que parallèlement, je trouve que le film est effectivement très balourd. Parfois, pas tout le temps, mais c'est notamment l'épilogue qui est ultra, ultra, ultra lourd. Et voilà, tout ce mélange est assez déplaisant. C'est un film qui est pas, moi je trouve, qui est pas très agréable, quoi, justement, à ce niveau-là. L'autre souci que j'ai avec le film, et qui est un souci qui est un peu plus problématique, enfin j'ai du mal quand même à le pointer du doigt, parce que je trouve que la principale qualité du film découle aussi de ce souci-là. Bon, alors, je commence avec le truc négatif, c'est que je trouve que c'est un film qui est... Alors, c'est pas sur l'exploration spatiale, mais ça... Enfin, si, je pense que ça l'est en partie, mais en tout cas, c'est en toile de fond, très clairement. C'est un des moteurs et c'est une des raisons pour lesquelles tu y vas. De quelqu'un qui n'aime pas ça, en fait, et qui va t'expliquer pendant tout le film pourquoi, en fait, ça sert pas à grand-chose, pourquoi c'est pas bien. Et du coup, je trouve qu'au niveau du plaisir de spectateur, t'as un truc qui est tout le temps sapé, en fait, là-dedans. Qui est... c'est jamais galvanisant, c'est jamais... t'as jamais envie d'aller vers l'ailleurs. Là où, First Man, justement, jouait habilement, en fait, de ça. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie fascination, il y avait une peur, il y avait une fascination pour ça, et du coup, tu te raccrochais aussi au personnage principal grâce à ça, notamment, et je trouve que du coup, la fin de First Man était hyper bouleversante. Là, moi, sur Ad Astra, je n'ai rien ressenti, quoi. Alors, je pense que moi, j'aime beaucoup Tommy Lee Jones, par ailleurs, mais là, c'est vrai que dans le film, il n'est pas bien. Je pense
j'aime les topinambours, donc.
Ce souci était... Oui, non, je trouve extrêmement dur, et je trouve qu'il devrait revoir The Huntsman, mais c'est pas grave. c'est un autre débat. Le truc, c'est que de cette posture-là de James Gray, enfin, en tout cas, que moi, j'ai ressenti, découle aussi un des trucs que j'aime beaucoup dans le film, et là, je rebondis sur ce qu'a dit Stéphane, qui parlait lui de production design. Moi, j'irais plus loin en disant que c'est un créateur d'univers. C'est-à-dire qu'il m'a proposé quelque chose, en fait, avec Ad Astra, qu'en tant qu'amateur de SF, je ne vois pas souvent, qui est de... Alors, je suis désolé pour le néologisme, mais faute de mieux, je vais quand même le sortir, qui déglamourise, en fait, la conquête spatiale.
En termes de néologisme,
c'est pas trop méchant, tu vois, mais t'as vu, tranquille. En plus, j'ai préparé le terrain. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur un truc où... c'est nul en fait. C'est-à-dire que l'exploration spatiale, les vaisseaux ils sont dégueulasses, t'as une logique marchande derrière tout ça qui fait que tout est moche, tu te retrouves dans des espèces de blocos qui sont décrépits avec des gens qui sont pas contents d'être là, des gens qui sont en vrac, tu vois, alors que d'habitude c'est des gens qui sont tirés à quatre épingles, tu vois, dans les trucs d'exploration spatiale et tout. Là, tu sens que c'est des petites mains en fait qui ont pas envie d'être là, que ça saoule et tout. Et je trouve qu'il en ressort une saveur qui est assez inédite, assez déplaisante, encore une fois, mais pour le coup, qui m'a surpris et que j'ai un peu du mal à trouver des équivalents. J'en ai un tout petit qui est plutôt ludique et pour la blague, j'en parlerai dans mes recos, mais j'ai pas vu tant que ça. Ça me fait un peu penser, c'est marrant, parce que Perrine parlait de western, en fait. Moi, ça m'a un peu fait penser là-dessus, sur Outland, en fait, qui est un petit film de SF qui est tout petit, hein, mais qui est un film que j'aime bien, pour lequel j'ai un vrai attachement, en fait, qui était un film de Peter Yams avec Sean Connery, qui était un remake du Train sifflera trois fois, mais qui était dans une des lunes de Jupiter, si mes souvenirs sont bons. Enfin bon, bref, dans une exploitation minière comme ça, aux confins de l'espace. Et il y a de ça, en fait, là-dedans. Et je suis content, en fait, de retrouver ça. Donc c'est un prototype un peu tout guingois, à mes yeux, un peu balourd, un peu lourdingue, pas très agréable, mais ça reste quand même un prototype qui me propose deux, trois trucs neufs, et rien que pour ça, vu le contexte cinématographique américain des grosses productions actuelles, bah, j'ai envie de pas le jeter comme ça totalement. Mmh.
Très bien. On le jette pas.
Oui, c'est ça, Jimmy. C'est de te rattraper aux branches. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers que vous voulez, parce que vous le savez, c'est un exercice de liberté totale. Tiens, Jimmy.
Écoute, moi, je suis resté sur la relation père-fils. Ouais. J'ai pris Comme un chien enragé de James Foley, qui est sorti en 86, avec Sean Penn et Christopher Walken, dans lequel, en fait, Christopher Walken joue le père de Sean Penn, qui est un espèce de mafieux bandit, et que Sean Penn veut absolument rocher les wagons avec lui. Évidemment, tout se passe très très mal. Et voilà, c'est un film qui se passe dans l'Amérique rurale, donc loin de l'espace.
Tu aurais préféré Christopher Walken à la place de Tommy Lee Jones
Par exemple, ouais. Mmh. Ouais. J'aurais même préféré Frédéric Diefenthal, à vrai dire.
Ah, très bien, Frédéric
Diefenthal. Là, je provoque. Là, si tu continues là-dedans, je vais continuer à aller dans la provocation. C'est comme ça que je fonctionne.
Je sais que tu fonctionnes comme ça.
Voilà. Et la musique est de Madonna, d'ailleurs. Très bien. Je précise.
Voilà. Tu fais bien de me le préciser, ça.
Non, mais c'est un film des années 80, en fait, qui
est ressorti chez Carlotta.
Ouais, il n'y a pas très longtemps. Et qui est assez peu cité, en fait, durant cette période-là, et qui est vraiment, vraiment hyper bien, et qui... il n'est pas si éloigné de Little Odessa, par exemple. Moi, j'adore Little Odessa, il est beaucoup moins noir et beaucoup moins plombant, mais il fonctionne un peu sur le même ressort, quoi.
Très bien, Perrine.
Oh, j'ai pensé à un film qui est assez évident, en fait, en soi, par rapport à Ad Astra, c'est Contact, de Zemeckis. Où on a Jodie Foster, cette petite fille qui son père lui donne, enfin, la passion de l'espace, etc., qui meurt et qui va continuer sa carrière dans le milieu de l'espace, un peu comme finalement le personnage de Brad Pitt qui a été motivé par son père et qui, par la perte, va finalement d'une certaine façon en faire une carrière, d'autant plus, ça lui donne une raison supplémentaire. Et dans les deux cas, il y a une volonté un peu de trouver le père, en fait, de retrouver ce lien avec le père au fin fond de quelque chose, au fin fond du monde. Il y a un lien dans Contact qui est beaucoup plus fort, parce que je me souviens pas de ça dans Ad Astra, ma mémoire me fait défaut là, mais je crois pas qu'il y ait un lien avec Dieu particulièrement fort, ou en tout cas la question de Dieu n'est pas évoquée, quoi. Enfin, on n'est pas dans l'espace, on est proche de Dieu, quoi.
Mais par contre, c'est le néant, en fait, l'espace, hein, dans Ad Astra.
Ceci dit, il a une figure... Il ressemble un peu à Dieu quand il lui apparaît dans Ad Astra, Tommy Jones.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est
peut-être pas pour Jimmy.
Alors, pas pour Jimmy, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'utilisation de la voix et le fait que ça vienne du haut, etc. etc.
Oui, voilà, mais je veux dire, en soi, la question de Dieu, elle n'est pas évoquée en permanence. Là où dans Contact, c'est beaucoup plus présent, ce rapport à l'au-delà et en tout cas à la religion, est beaucoup plus prégnant. Mais c'est vrai que je trouve que c'est deux films qui partent de deux points de vue relativement similaires, qui font pas du tout la même chose. Hein, on n'a pas du tout la même chose, et clairement pour moi Contact est c'est beaucoup plus le bordel, mais je l'aime beaucoup aussi, et ils ont cette même douceur et violence du désespoir dans les deux cas qui moi me bouleverse, et je pense qu'on peut mettre les deux films, on pourrait se faire un double programme en forme, encore une fois, mais on peut se faire un double programme qui serait plutôt intéressant, les films se répondent assez.
Stéphane.
Moi, ayant épuisé tous les grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma l'an dernier, en termes de reco, je sais pas. En fait, je me disais, il y a un film qui est assez mal aimé, qui est un film qui se passe dans l'espace, qui est objectivement pas un très bon film, mais qui regorge par contre de 2-3 scènes vraiment, en termes de mise en scène, dingue, et qui pour moi est peut-être même le dernier film intéressant de son auteur. C'est Mission to Mars, en fait, de Brian De Palma, qui, moi, je tendance à considérer un peu comme 2001 pour les beaufs, à une époque où,
2001, l'Odyssée des beaufs.
L'Odyssée des beaufs. Non, mais c'est surtout dans le traitement, dans la façon, en fait, de comment les mecs arrivent à toucher, on va dire, la source de l'humanité en arrivant sur place à la fin, ce qui est quand même assez ridicule, hein, dans le film, quoi. Mais c'est surtout, c'était à une époque où 2001 n'était pas forcément cité à tout bout de champ dès qu'on partait dans un film dans l'espace, quoi. Et il y a notamment, en fait, une ou deux scènes, il y a une très belle scène qui renvoie à 2001, qui est une scène de danse entre le personnage de Tim Robbins et sa femme. Je me souviens plus quelle est l'actrice qui interprète sa femme, d'ailleurs.
Voilà. Vous trouvez ça.
Ouais. Et merci.
Thomas Tapp.
Continuez. Voilà.
C'est celle qui joue dans Basic, non ?
C'est ça, ouais. Et dans Gladiator. Ouais.
Ah !
Continuez.
Continuez
à parler. Je trouve ça.
Donc il y a cette scène qui est assez belle et qui est un vrai moment de mise en scène assez.
Connie Nielsen.
Connie Nielsen, merci.
qui est un moment assez touchant. Et il y a aussi la scène de la mort de Tim Robbins.
Putain, c'était spoil.
Je spoil mon spoil ici dans cette émission. Oui. Je veux dire,
c'est pas un film récent, on peut dire.
C'est des sacrés moments de mise en scène. Quoi.
Voilà, c'est des moments.
T'as plus d'apesanteur, t'as plus de haut, de bas, et malgré tout, t'es tout le temps, t'as toujours des repères. Quoi.
Et t'as du coup une espèce d'immersion dans l'espace, en fait, qui pour moi fonctionne super bien et que j'aurais aimé voir dans. Il y a Sacred Gravity en l'occurrence, mais vraiment. Mais dans plus de films, en fait, ces dernières années, plus de films sur les conquêtes spatiales, quoi. Donc voilà, c'est vraiment. Mais c'est vraiment, je le recommande vraiment pour deux, trois scènes très très fortes et très très belles. Le film dans sa globalité, malheureusement, c'est quand même un ratage, quoi.
Julien.
Alors moi c'est plus pour la rigolade quoi du coup
non mais ici,
je rebondis en fait sur le côté déglamoriser l'espace en fait et je voulais parler d'un film qui à ma connaissance n'a jamais été distribué en France qui a même une distribution très compliquée en fait parce qu'il y a eu des problèmes de droits avec les producteurs.
C'est un film que tu vas inventer là ou
non pas du tout film. C'est un film qui s'appelle Space Truckers de Stuart Gordon. Alors Stuart Gordon c'est on le connaît surtout pour son premier film en fait qui est Reanimator qui est un mec qui a été beaucoup cantonné à la série B qui avait fait un film sympathique, moi, je trouve, avec Christophe Lambert, qui s'appelle Fortress. Et pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'affection, parce qu'il était... j'aime bien Fortress.
Faut que je le revoie.
Ah, c'est rigolo.
J'ai envie de le revoir.
En fait, Vernon Wells.
Je suis dans ta team, Julien.
Mais il y a Vernon Wells aussi dans Space Truckers, d'ailleurs, qui fait un hommage, d'ailleurs, à Mad Max 2. Mais bref. Et qui est un mec qui est une espèce d'épicurien, en fait, du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de fesses, il y a toujours beaucoup de sang. Il y a un côté dans ses meilleurs films, parce qu'il a fait aussi des très très mauvais films, mais il y a un côté un peu festif et un petit peu subversif en fait, qui est sympathique. Et Space Truckers est un film assez unique en fait, en son genre. Il me fait penser à certaines BD de Metal Hurlant puisque c'est une histoire qui tourne autour de camionneurs de l'espace. Donc c'est des truckers quoi, voilà, des trucs super un peu beaufs, etc. Le personnage principal est joué par Dennis Hopper et qui se retrouve à devoir convoyer une cargaison mystérieuse avec une surprise super bien designée. Enfin bref. C'est un petit film sympathique. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus facile d'accès. Pendant une époque, en fait, il y avait. C'était un peu
le Graal.
L'Eldorado, le Graal, quoi. Il fallait se battre, en fait, pour voir le truc. Il avait été diffusé. Je me suis au festival de Jarmet et on trouvait quelques VHS NTSC sous le coude et tout. C'est un des plus gros budgets, d'ailleurs, de Stuart Gordon. Il y a des jolis effets spéciaux, il y a des beaux designs de Ron Cobb. C'est sympa.
Et comment on le trouve alors ? Il y a des versions.
Je pense que par les voix un peu.
D'accord, ok.
Thomas, on est en 2019.
Je crois qu'il y a. Je sais pas, je suis un grand naïf.
Je crois qu'il y a un DVD américain qui existe.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, ouais, un DVD américain. C'est comme la petite copine du Québec, ça. C'est le truc qui n'existe pas vraiment. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Thomas, la technicienne, une référence extrêmement complexe.
Vous chercherez.
Merci à Thomas, la technique Binge Audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.